Elisabeth Borne, le gouvernement français très attendu par les habitants de l'archipel français dévasté, avec un bilan toujours incertain sur place à ce stade. Officiellement 39 morts et plus de 5600 blessés. Les hommages se sont multipliés ces dernières heures après l'annonce de la mort de Jimmy Carter, ex-président américain, prix Nobel de la paix, décédé à l'âge de 100 ans. L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire, déclaration de Joe Biden, l'actuel dirigeant des États-Unis. Premier jour de deuil national ce lundi en Corée du Sud après la mort de 179 personnes dans un accident d'avion de ligne survenu hier matin. Séoul, où les enquêteurs ont demandé aujourd'hui à la justice d'émettre un mandat d'arrêt visant Yoon Se-kyol, président destitué le 14 décembre dernier pour avoir brièvement tenté d'imposer la loi martiale dans le pays avant de reculer sous la pression du Parlement et de la rue. Ce dernier a refusé hier pour la troisième fois de se présenter à un interrogatoire. En Géorgie, Mikhail Kavelashvili a prêté serment hier, nouveau président du pays, largement contesté par l'opposition, et dans le même temps, quelques milliers de protestataires se sont à nouveau rassemblés à Tbilissi. Et tout de suite, c'est la revue des journaux africains. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour André-Anne Mellard.
On fait avec vous le tour de la presse africaine à la une ce week-end électoral au Tchad.
Le triple scrutin législatif provincial et municipal qui marque la fin de la transition. Tchad Vision publie une photo du maréchal Mahamat Idriss Déby, comme souvent vêtu de blanc avec des lunettes de soleil, en train de déposer son bulletin de vote dans une urne à N'Djamena. Le site d'info raconte aussi la journée de vote. La tension est palpable. Les premiers signes d'inquiétude se sont manifestés dès les premières heures de la journée électorale, car de nombreux bureaux ont ouvert avec du retard, beaucoup de retard. Tchad Vision partage le témoignage d'un candidat de l'opposition qui parle de mascarade et déplore des irrégularités lors du vote des militaires organisé samedi. Le site évoque une bulle d'opacité pour le scrutin marquée par une faible participation et le boycott d'une partie de l'opposition.
Ce scrutin est commenté dans les éditoriaux de la presse du continent.
Des élections générales pour parachever une monarcratie, titre le Djeli en Guinée, qui invente donc un nouveau mot et pour qui les résultats ne font pas de doute. La contradiction n'est pas de mise au Tchad, poursuit l'édito, rappelant la répression meurtrière des manifestations du 20 octobre 2022. Au Burkina, le pays espère que ce scrutin ouvrira les portes de la décrispation. Certes, dit-il, le Tchad est toujours loin d'être une référence mondiale en matière de transparence électorale. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le pays reconnaît aux autorités actuelles le mérite d'avoir mis en place toutes les institutions républicaines indispensables au fonctionnement, même à minima, de la démocratie réclamée à corps et à cri par les Tchadiens et la communauté internationale.
À la une de la presse également, Marion, l'affaire Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, est emprisonné depuis un mois et demi en Algérie.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur le sujet. Tebboune évoque pour la première fois l'affaire, titre TSA à Alger. Il rapporte les propos du chef de l'État qui estime que l'écrivain est un imposteur qui vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Il ferait ainsi référence aux propos de Boualem Sansal dans un média français où il reprenait la position du Maroc selon laquelle le territoire du pays aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. Un président ne doit pas tenir ce genre de discours de caniveau, commente Le Matin d'Algérie, qui parle de graves accusations venant d'Abdelmadjid Tebboune contre, je cite, un détenu d'opinion sans défense. Au Maroc, l'opinion explique que lors de ce discours à la nation, le président algérien s'en est pris vivement à la France et qu'il ressasse ainsi ses thèses complotistes contre Paris.
Vous parliez, Marion, du Matin d'Algérie. Le média fait le bilan de 2024.
Les traditionnels bilans de fin d'année. En Algérie, c'était une année de désenchantement et d'espoir déçu, soupire Le Matin, qui déplore une répression des libertés. Rien de nouveau, poursuit-il, sous le pâle soleil de la nouvelle Algérie qui se drape toujours des oripeaux de l'ancienne, avec la liberté en moins. Avec toutefois une parenthèse estivale bienvenue, reconnaît le journal, lors des JO, avec le succès de la boxeuse Iman Khelif, symbole d'une Algérie capable de réussir en se surpassant, souligne l'édito. Africa News énumère justement les exploits sportifs de l'année avec la médaille d'or de la boxeuse et plus globalement la gloire africaine aux JO de Paris. Notamment la première médaille d'or africaine sur le 200 mètres avec le Botswanais Letsile Tebogo.
On s'en souvient. Après les bilans de la presse, Jeune Afrique se projette en 2025.
Avec un grand dossier sur les défis à venir sur le continent, le mensuel se demande par exemple si les locomotives du continent, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, vont renouer avec la croissance. Ils notent en tout cas des signes de reprise au Nigeria, avec notamment le retour des investisseurs étrangers. Ces derniers mois ont aussi été prometteurs en Afrique du Sud. Jeune Afrique note que cela fait 7 mois que le pays n'a pas connu de délestage d'électricité, un indicateur clé de sa santé économique.
Marion Kazanov pour la revue des journaux africains. Tout à l'heure, Marion. Depuis une semaine, la déclaration fait scandale, celle du ministre sénégalais Cheikh Oumar Diagne a parlé. Il a parlé des tirailleurs sénégalais comme de traîtres qui se sont battus contre leurs frères. La polémique est lancée et ce matin, RFI fait réagir un spécialiste de l'histoire de ces tirailleurs, Christian Eboulé, également journaliste à TV5 Monde. Il vient de publier Le Testament de Charles aux éditions Les Lettres Mouchetées, un livre consacré au capitaine franco-gabonais Charles Ntchoréré, abattu par les Allemands en 1940. Christian Eboulé est notre invité ce matin. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Christian Eboulé, bonjour.
Bonjour.
Alors Charles Ntchoréré, c'était un officier français d'origine gabonaise qui avait multiplié les faits d'armes depuis la guerre de 1914. Pour vous, c'est un héros français ou un héros gabonais ?
Pour moi, c'est un héros tout court parce qu'il a défendu les valeurs d'humanité et de fraternité sur un terrain d'opération, la Seconde Guerre mondiale, dans lequel il avait été amené comme capitaine des troupes coloniales françaises. C'était un humaniste en uniforme, de mon point de vue, et son combat lors de cette guerre mondiale en 1940, c'était un combat pour cet universalisme que la France promouvait et défendait pendant la période coloniale. Donc, c'était un homme qui ne se battait pas uniquement pour la France, il se battait pour l'idée qu'il se faisait de la liberté.
Et après avoir été capturé par les Allemands, il a donc été séparé des autres officiers de l'armée française et abattu d'une balle dans la tête. Est-ce à dire qu'il a été tué parce qu'il était noir ?
Il a effectivement été tué parce qu'il était noir, parce qu'il a protesté contre cette ségrégation. Il a aussi protesté contre les massacres qui étaient pratiqués par certaines unités allemandes, certaines unités, pas toutes, les unités nazies notamment, massacraient de manière systématique les tirailleurs sénégalais. Charles Ntchoréré s'est opposé à ces deux pratiques et il y a laissé sa vie.
Depuis quelques jours, un ministre sénégalais, Cheikh Oumar Diagne, crée la polémique sur les tirailleurs sénégalais. Il affirme « Leur bataillon a été créé par le colon, ce sont des traîtres qui se sont battus contre leurs frères dans leur pays. Pour moi, ce ne sont pas des héros, en tout cas pas des héros à nous ».
Alors, Cheikh Oumar Diagne n'est pas n'importe qui, c'est un ministre conseiller à la présidence. Alors, ce sont des propos d'une très grande violence, car dans son interview, il affirme une litanie de griefs sans fondement qui flairent, à mon avis, la manipulation et le populisme. Cheikh Oumar Diagne affirme pêle-mêle que les tirailleurs battaient les Sénégalais, s'en prenaient aux villageois, attaquaient les résistants, tuaient les marabouts et les maîtres coraniques. Autre exemple, il affirme que la seule préoccupation des tirailleurs sénégalais était pécuniaire. C'était l'argent leur préoccupation. Et pour preuve, il cite les massacres de Tiaroy. Autrement dit, à Tiaroy, tous ceux qui ont été massacrés s'étaient rebellés par cupidité. Ici, on constate que notre ministre conseiller ignore toutes les difficultés des tirailleurs et surtout leurs difficiles conditions de vie contre lesquelles luttait notamment le capitaine Charles Ntchoréré, qui était la voix des tirailleurs à Tiaroy. Ils se battaient pour leur dû et pour leur dignité. C'était les deux. Les deux étaient indissociables. Ils avaient fait la guerre, ils étaient retournés, on leur avait promis cet argent, il était normal qu'ils le réclament.
Est-ce que tout est faux dans ce que dit Cheikh Oumar Diagne, le ministre sénégalais ? Un historien sénégalais, Mamadou Fall, a ce mot. Il y a eu des moments où la France a fait faire aux tirailleurs une sale besogne. Au Cameroun, en septembre 1958, ce sont des troupes coloniales françaises qui ont abattu le dirigeant indépendantiste Ruben Niobé, notamment des troupes d'origine tchadienne. Est-ce que cette sale besogne, pour reprendre l'expression de Mamadou Fall, n'entache pas la mémoire des tirailleurs sénégalais ?
Je crois que les tirailleurs sénégalais ont le dos large. Ils étaient des supplétifs pour la plupart. Ce sont des hommes qui ont vécu sous la domination coloniale, qui ont essayé de s'en sortir et qui, par différents mécanismes, étaient parfois contraints. Je rappelle juste une chose, le service militaire était obligatoire durant l'entre-deux-guerres. L'ancien président Sangoulé Lamizana, c'est de cette manière qu'il a été incorporé dans les troupes coloniales et les moyens d'y échapper étaient vraiment extrêmement limités.
Voulez-vous dire que certains soldats de l'armée française sont devenus ensuite de grands patriotes dans leur pays nouvellement indépendant ? On pense à Sangoulé Lamizana en Haute-Volta, Séni Kounché au Niger, Félix Maloum au Tchad et bien sûr à Ahmed Ben Bella en Algérie.
Ils ne sont pas seulement devenus les premiers cadres de l'indépendance. Je pense notamment à un Sénégalais célèbre, Lamine Senghor, décédé prématurément malheureusement en 1927. Lamine Senghor est l'un des tout premiers indépendantistes et c'est un ancien tirailleur sénégalais qui a été malheureusement gazé pendant la Grande Guerre 14-18. Il était un indépendantiste affirmé.
Christian Éboulé, merci.
Christian Éboulé, auteur du livre Le Testament de Charles, publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Il répondait à Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver sur notre site rfi.fr. Vous restez avec nous dans 5 minutes, le journal. À la une, la mort de Jimmy Carter, ex-président américain. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque jour. Et ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana, tout le monde veut être fonctionnaire.
Oui, les citoyens de la très démocratique République écoutent toujours avec une vive attention les adresses à la nation de notre leader bien-aimé. Ils ne ratent pas une miette de ses discours de campagne électorale, de ses déclarations dans les forums internationaux à New York, Washington, Paris ou Genève. Ils retiennent le fil rouge qui relie toutes ses allocutions de président fondateur, une pensée, une idée forte, une promesse pour tous les Gondouanais du quotidien qui est d'assurer du travail à chacune et chacun, un job, un taf pour remplir la marmite, se loger, se soigner et assurer un avenir aux enfants gondouanais. Du coup, ces mêmes gondouanais, prenant au mot son excellence président fondateur, à savoir trouver un emploi, cherchent à gauche et à droite partout où la main passe et repasse. Du matin au soir, mais tu les vois parcourir les rues et ruelles de Gondwana City, notre belle capitale. Tu les croises en pleine pratique du système G, G comme grouillé, appliquant à la lettre les instructions du manuel du parfait débrouillard, dont la première est la chanson « Débrouiller, débrouiller, débrouiller n'est pas volé ». Il n'y a pas de sous-métier, même si tu portes les cartons, tu peux pas les rater. Ils vendent tout et n'importe quoi, du matin à minuit, au marché, au carrefour, au feu rouge, et même dans la circulation, sur la voie rapide, où, dès qu'il y a un petit ralentissement, tu ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là à se faufiler entre les voitures pour te vendre téléphone portable, serviette de bain, couteau de cuisine, jouets pour enfants, etc. Ils sont là, infatigables, mais dignes, méritant le moindre sou qu'ils vont gagner durement sous la chaleur et les fumées des pots catalytiques. Ils n'ont pas de week-end, pas de jour férié, pas d'heure d'ouverture ou de fermeture, pas d'assurance maladie, pas de retraite. S'ils ne vendent rien, ils ne mangeront pas le soir. Et toi, tu es dans ta voiture, les vitres levées, tu les vois et tu te dis que tu as de la chance d'être fonctionnaire dans ce pays. Mais oui, tu as tout ça, toi, même si c'est aléatoire, comme la pluie au Gondwana. Tu as ton salaire qui tombe. Et eux aussi te voient dans ta voiture et se disent qu'ils auraient bien aimé être comme toi. Et dans ton quartier aussi, les gens te regardent et rêvent d'être fonctionnaire comme toi. Ben oui, ils avaient rêvé d'être médecin, professeur, avocat, etc. Mais c'est fini tout ça, depuis qu'ils ont vu l'état des hôpitaux et des écoles au Gondwana, depuis qu'ils ont vu les futurs médecins et professeurs prendre la route pour la grande traversée jusqu'à Paris ou Montréal. Fonctionnaire, tous les jeunes veulent devenir fonctionnaires au Gondwana. Tu n'as pas le stress de l'entrepreneur qui doit débrouiller pour boucler les fins de mois, payer les salaires, payer les impôts, les taxes et les cadeaux pour les fonctionnaires qui lui ont trouvé des marchés. Tous les jeunes gondouanais veulent devenir fonctionnaires parce que y a rien d'autre à l'horizon. Et parce qu'au Gondwana, tu sais que de toute façon, qu'on monte ou qu'on descende, en tant que salarié de l'État, eh ben les dépenses des autres gondouanais, c'est les recettes de l'État. Et donc ton salaire à toi. À demain.
Merci Maman. Et à demain, RFI Matin continue. On reste ensemble jusqu'à 9h.
RFI, la sélection du mois.
Quiero saber si tu labio me eriza la piel. Ven, pégate, quiero saber.
Reino.
A qué colores me saben tu boca.
Carnet sur le feu. Gabriela Lima et Vanille.
Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi, l'or et le vermeil coloraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le
RFI Musique.
De voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie. Aujourd'hui, de la ferme à l'assiette, comment l'Europe transporte son bétail ? L'origine Union européenne est-elle vraiment un gage de qualité? Demain, après les répercussions de la vague MeToo, que signifie être un homme dans les sociétés contemporaines d'Afrique? 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Il est médecin, elle est prof, il forme un couple moderne, mais tout va voler en éclats quand la tradition change le cours des choses. Il est désigné comme chef coutumier. Dans le harem du roi, Djaïli Amadou Amal raconte et dénonce encore et toujours la polygamie imposée aux femmes de son pays.
De vive voix, avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.